On m'a demandé de juste partager quelques informations par rapport à la vie, finalement, à ma vie en Espagne. Donc c'est ce que je ferai courtement, et puis ensuite j'essaierai avec vous de voir ce que la parole de Dieu veut nous enseigner ce matin, et Dieu lui-même. Je suis comme toujours en fait très content d'être là, mais c'est plus qu'un contentement en fait. Je me sens privilégié de pouvoir être avec vous ce matin, de pouvoir prendre la parole comme ça, en fait, devant vous. Parce qu'en fait, je ne sais pas, souvent quand on pense que ceux qui prennent la parole, ils sont un petit peu dans un monde à part, où je ne sais pas ce qu'on peut penser finalement, mais je puis vous assurer que, je ne vous le dis à personne, mais j'aimerais plutôt être assis à votre place. Mais bon, en même temps... C'est une assemblée qui m'a, depuis déjà quelques années, en fait, signifié sa confiance, son soutien. Et pour moi, c'est énorme, en fait. Donc, du coup, je veux être présent et vous dire toute ma reconnaissance pour cela. Je pourrais terminer là, mais je vais quand même aller un peu plus loin. En fait, depuis donc 4 ans, vous savez, le Seigneur continue dans sa grâce de m'utiliser pour son service. Et pour se faire connaître en Espagne, les grandes lignes de mon travail, en fait, de mon service, vont vers l'accueil de jeunes un peu en difficulté. Certains détenus aussi, français, qui ont eu un parcours un peu compliqué du fait de leur choix de se convertir à un islam radical. Donc ils ont été arrêtés en Espagne, emprisonnés. Et mon travail, c'est de les accompagner en tout cas, essayer de les amener à raisonner et à réfléchir pour, en fait, ce qu'on appelle ici une déradicalisation, en fait, hein, c'est le terme officiel, mais c'est surtout dire de les ramener à une conscience de qui est Dieu vraiment et qu'est-ce que ça implique de le servir. Donc, je suis très reconnaissant pour ça. J'ai par ailleurs une activité professionnelle qui me permet aussi d'avoir un domaine de témoignage et qui pour moi demeure en fait ça reste dans le domaine du service finalement parce que je travaille pour une assurance qui fait de l'assistance sur route, donc du coup je suis souvent confronté à recevoir des appels de personnes en détresse pour lesquelles en fait on met en œuvre un type d'assistance en fonction de leur situation et souvent c'est génial parce que je me dis en fait là encore on est dans le cœur de la réalité de cette vie, en fait, sur cette terre. Je dis ça parce que souvent, on pense que les chrétiens, d'une certaine manière, en fait, parce qu'ils croient en Dieu ou parce qu'ils ont des idées élevées, en fait, de la foi ou je ne sais quoi, on pense qu'ils sont un peu déconnectés des réalités. Et j'ai toujours pensé, et c'est ce que j'expérimente, en tout cas, dans ma propre vie, et c'est ce que je dis à ceux qui m'entourent, c'est que bien au contraire. Bien au contraire. C'est-à-dire qu'on est au cœur plus que jamais de la réalité de ce monde, de sa souffrance, de ses difficultés. Et c'est précisément pour ça, en fait, qu'on pense avoir une certaine mission, un service à apporter, un message d'espérance, qui est en fait un message un peu assez exclusif, finalement. Il n'y a pas très longtemps, j'assistais, toujours dans le cadre de mon service, à un procès, en fait, un long procès de 10 jours. J'étais présent, en fait, pour pouvoir être là en auditeur et puis consultant, dans le sens où je devais rapporter tout ce qui se disait, en fait, à une personne qui était concernée parce que son père avait été assassiné, et donc l'assassin était là, en tout cas le supposé assassin. Et pendant 10 jours, en fait, j'ai écouté, finalement, les avocats respectifs, les témoins, ceux qui ont mené l'enquête, les psychiatres et tout cela. Et finalement, au bout de 10 jours, en fait, cet homme a été déclaré innocent. Alors qu'en fait, tout pointait vers sa culpabilité. Je ne suis pas expert, mais enfin, les experts, justement, ont clairement démontré, en fait. Mais par le jeu, en fait, d'un avocat habile, de la défense, par le fait que, en fait, les jurés, finalement, recevait l'information sans savoir exactement comment la gérer. Enfin, finalement, il a été déclaré innocent. Et donc, je dis ça parce que, en fait, on vit vraiment dans un monde où les choses ne tournent pas rond. Et quand on parle, en fait, de christianisme ou de foi ou de vous savez. Je crois que c'est important de définir de quoi on parle. Le texte, en fait, que j'ai choisi, je vais le lire, et ensuite, en fait, je vais essayer de le commenter rapidement, pour nous aider, en fait, j'espère. Vous savez, enfin, là encore, je vous partage un truc, c'est entre nous, mais souvent, on donne un titre, vous savez, enfin, on essaie de donner un titre qui résume le message. Je vous le dis, mais ça veut dire, j'ai voulu dire, enfin, ce titre, je le lis là, ça s'appelle « La vraie vie sur Terre ». La vraie vie sur Terre. Alors, ça pourrait paraître, Fred, c'est très prétentieux, en fait, de toucher, en fait, un thème si important, quoi. Et quelle prétention d'imaginer, en fait, ce que tu puisses transmettre, en fait, un sens de la vie véritable sur cette Terre. Eh bien, pourtant, c'est ma prétention ce matin. Je veux dire, j'en ai assez, quelque part, de voir tant de gens se perdre. J'en ai assez de voir tant de souffrances autour de moi, tant de gens pleurer. Tant de gens en quête, en recherche. Tant d'options qui leur sont proposées. Options vaines, finalement. J'en ai assez. Alors, c'est un agacement, en fait, qui se traduit par une volonté ferme de continuer à prêcher ce message d'espérance. Vous savez, souvent on dit, mais en fait, faites attention. On me dit à moi, ne deviens pas fondamentaliste ou trop radical ou je ne sais quoi. Je suis désolé, je suis tout ça en même temps. Mais je suis surtout passionné, en fait, passionné par ce message, en fait. Parce que plus je le vis, plus je le comprends, en fait, plus je le vois et je le sens comme parfaitement adapté, en fait, à la quête de tous ceux qui m'entourent et je crois, de tous les êtres humains en général. Ce texte que je vais vous lire, en fait, il se trouve dans l'Épître aux Colossiens. Bon, c'est une épître que Paul a écrite. C'est 4 versets, ça, c'est pas long. Et il part d'un présupposé que je vais lire maintenant. Il dit ceci. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Mais j'aimerais quand même commencer par ce présupposé de Paul, parce que quand il dit « si vous êtes donc ressuscité avec Christ », parce qu'il écrit à une église, il imagine que tous ceux qui vont lire cette lettre sont ressuscités avec Christ. Et pour utiliser des termes qui soient peut-être plus compréhensibles, on pourrait dire en fait à la place de « si vous êtes ressuscité avec Christ », « si tu es chrétien avec Christ ». Alors la formulation n'est pas tout à fait juste si tu es chrétien avec Christ. Mais finalement, c'est la plus courte et belle définition en fait, de ce qu'est le christianisme. Christ en toi. Christ en chacun de celui qui se confie en lui. Ça veut dire que c'est pas, en fait, quand on parle du christianisme, ce dont je vais parler, c'est pas une option en plus. C'est pas, en fait, une religion en fait, parmi tant d'autres. C'est pas une philosophie non plus, en fait. C'est pas finalement une option de vie, en fait, avec une morale, avec une éthique. Et tout. Ça n'a rien à voir avec tout ça, mais absolument rien à voir. On parle de l'idée que devenir chrétien, c'est accepter Christ, le Christ vivant, dans sa vie. Et c'est ça qui fait de nous des chrétiens. En fait, c'est beaucoup plus sérieux qu'on ne peut le penser, quoi. En Espagne, en tout cas, mais peut-être pas seulement, plus ça va et plus les gens qui sont à l'extérieur de l'Église pensent que finalement le christianisme, c'est une option en plus. Mais c'est beaucoup plus grave que ça. C'est beaucoup plus sérieux que ça. On ne parle pas d'option. Dans une autre épître, l'apôtre Jean dit ceci, et ça va dans le même sens. Dieu a donné la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est en son Fils, le Christ. Celui qui a le Fils, il a la vie. Mais il continue en disant, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Dans l'épître aux Colossiens, Paul dit, mais vous étiez morts par vos offenses et vous avez été rendus à la vie avec Christ. Ça veut dire que c'est une question finalement de vie ou de mort. C'est pas juste une option philosophique. C'est pas une religion en fait, une autre religion. C'est une question de vie ou de mort. Selon le texte, en fait, biblique. Dans ce passage, en fait, Paul parle des choses d'en haut et des choses d'en bas, en fait. Il dit, bon, fixez vos regards sur les choses d'en haut et non pas sur ceux qui sont sur la terre. Dans un autre passage aussi, il dit, il y en a qui pensent qu'aux choses de la terre. Je crois que c'est important de comprendre, en fait, de quoi on parle quand il parle des choses de la terre, pour pouvoir les comparer aux choses du ciel. Parce que finalement, de quoi on parle quand on parle des choses de la terre et de quoi on parle quand on parle des choses du ciel. En fait, Paul ne nous appelle pas à devenir des poètes ou devenir des contemplatifs, des illuminés, en fait, en ayant le regard s'isoler, par exemple, dans un monastère pour pouvoir être... Il ne s'agit pas du tout de cela, en fait. Paul dit, t'ailles bien les pieds sur terre, et sur cette terre-là, en fait, je te recommande de poser les regards sur Christ. Et non pas tant de penser ou de poser tes regards sur les choses de la terre. Alors, c'est intéressant et c'est utile pour nous que dans cette même parole, dans la Bible, il y a un roi, en fait, qui a expérimenté, en fait, et qui a écrit, on va dire, une espèce d'abrégé de la vie, qu'on pourrait intituler « Le sens de la vie et le sens de la mort », juste simplement. Le sens de la vie et le sens de la mort. Pendant 12 chapitres, en fait, il va nous expliquer son parcours, comment lui, il a expérimenté, finalement, tout ce qui touche aux choses de la terre, avec des moyens que vous ne pouvez pas ni imaginer ni, et que vous n'aurez jamais, en fait, pour aller jusqu'au bout de cette expérimentation. Et en fait, quand il écrit ce roi, quand il expose en fait cet abrégé de la vie, du sens de la vie ou du sens de la mort, en fait, il présuppose deux choses. Il dit, bon, soit en fait, cette expérimentation, en fait, elle part de celui qui vit sa vie sans penser à Dieu parce qu'il ne croit pas en Dieu. Donc, il ne pense pas à Dieu parce qu'il ne croit pas en Dieu. Et finalement, je me dis qu'une autre définition du péché, ce mot un peu étrange, mais finalement, le péché en soi, c'est ne pas penser, c'est vivre sa vie sans penser à Dieu. Faire comme s'il n'existait pas. Et donc décider pour soi-même de tout ce qu'on va entreprendre dans cette vie-là. Donc c'est soit celui qui ne croit pas en Dieu et n'y pense pas, soit celui qui croit en Dieu, mais qui malgré tout vit comme s'il n'existait pas. Son examen est réellement très instructif, parce qu'en fait, je crois qu'il fait... Il brosse en fait le tableau de toutes les expériences humaines et expériences qui nous concernent encore et qui concernent encore nos contemporains. Toutes celles vers lesquelles nous allons pour trouver un sens à la vie. Alors il expérimente, il parle des richesses, du plaisir, de la joie, de la bonté, de la sagesse même. Et il dit toutes ces choses sont bonnes. Il y a un malentendu parfois, en fait, quand on parle des choses de la vie chrétienne et des choses qui ne sont pas bien, en fait. Mais il faut parler des choses qui sont bonnes en soi. C'est-à-dire que toutes ces choses-là que lui expérimente, finalement, il va dire, mais ce n'est pas des mauvaises choses. C'est le rapport à ces choses-là, en fait, qui est faussé. C'est le rapport à ces choses-là, en fait, qui pose problème. Ça veut dire que si on croit, en fait, que la quête ou l'accession, avoir accès, finalement, à la richesse, au plaisir, à la joie, à la bonté, à la sagesse, à toutes ces choses qui sont bonnes en soi. Si on fait de ces choses-là, de ces valeurs, des valeurs absolues, si on croit que ces valeurs vont répondre au sens de ma vie, de ta vie, c'est en cela, en fait, qu'on commet une erreur. C'est en cela qu'on se trompe. Et vous savez pourquoi ? Parce que, en fait, c'est comme ça, hein, mais Dieu nous a créés avec quelque chose en toi, en nous. Bon, ce roi l'appelle un peu l'intuition en fait, de l'éternité. L'intuition, c'est-à-dire qu'on a un sentiment en nous qui fait que nous pensons que la vie, ce n'est pas seulement les choses d'ici-bas. Il y a quelque chose qui nous laisse pas tranquille, qui nous appelle à vivre quelque chose qui dépasse un petit peu tout ce que cette terre ou ce monde peut nous proposer. Et ça a été créé parce que ça a été créé par Dieu, et donc du coup, on ne peut pas se débarrasser de ça. Et donc, quand on va se livrer à la richesse, à la bonté, à la joie, à toutes ces valeurs qui sont bonnes en soi, mais qui ne peuvent pas répondre totalement, en fait, finalement, ce roi dit, mais tout cela, c'est bien, mais ça ne va pas répondre à ton besoin profond. Et moi, je crois, je ne suis pas spécialiste dans la question, mais je crois que, en fait, toute la problématique de l'homme, tout ce qu'on peut en fait voir ou écouter en fait dans ce bas et apprendre de ce monde, toutes les questions sociales, politiques, tout ce qui est ébranlé dans ce monde est lié à cela. Tout est en rapport avec cela, avec le fait que l'homme a profondément besoin d'une valeur absolue. Parce qu'il a été créé pour ça, parce que tu as été créé pour ça. Et tant que tu vas t'investir dans des choses qui sont bonnes, mais qui sont seulement relatives, alors tu vas demeurer en quête, insatisfait, et limité dans ta capacité, en fait, aussi, à faire le bien. J'ai l'impression, moi aussi, que, je ne sais pas, mais il y a comme, comment dire ça, autour de nous, et de plus en plus, une expression de l'humanisme, une expression, en fait, de, même de la bonté, parfois. Et j'aime bien penser, il y a un refrain qui dit « la bonté va te perdre ». Je ne sais pas si ça, c'est français, ça, non ?« Ta bonté te perdra ». Souvent, parce qu'on dit, parce que tu es trop bon, on va te prendre pour un imbécile, non ? Mais l'idée, c'est que, dans la mesure où on fait même de l'amour, en fait, de la bonté, une valeur en laissant Dieu en dehors de cela, même ça, en fait, c'est vain. Alors, c'est étonnant parce que c'est comme si l'homme, il continue dans cette espèce de rébellion envers Dieu, en voulant exprimer toujours plus de bonté, toujours plus d'humanisme. Moi, je suis parfois, j'espère que vous n'allez pas vous fâcher avec moi, mais parfois, je me dis, mais c'est quand même... On fait des héros, des gens qui sauvent des chiens, des chats. Enfin, j'ai rien contre les animaux, j'en ai, d'accord. Mais il y a comme une espèce, c'est un humanisme exacerbé, quoi. C'est-à-dire, on va tellement dans un sens, vraiment, c'est formidable. Enfin, on retrouve la valeur de l'homme et de l'humain. C'est pas que ce soit pas bien, mais si tu fais de cela, en fait, le but de ta vie, c'est là où ça pose problème. C'est comme si, en fait, tout ce bien-être que peut nous procurer ces valeurs relatives crée en nous un mal-être. C'est bizarre, ce truc. C'est comme si, en fait, on devrait se sentir bien, finalement, quand on est dans des conditions de vie acceptables, quand on aime, quand on peut être bon avec l'autre, quand on est un minimum sage, quand on expérimente un minimum, on devrait se sentir bien, tout devrait aller beaucoup mieux, non ? Mais ce n'est pas le constat qu'on fait. Tout ne va pas beaucoup mieux. Paul parle des choses d'en haut, et en comparaison, il dit, bon, c'est bien de penser à ces choses-là, relativement bien, d'accord ? Mais ce qui est de plus important, ce qu'il y a de beaucoup plus important, ce qu'il y a de beaucoup plus urgent, pertinent, ce qu'il y a de vital pour vous, c'est de poser les regards en haut. Alors, là encore, on pourrait... se perdre en fait dans les choses d'en haut et dans des grandes spiritualités à la recherche d'expériences. Non, non. Le problème, c'est que Paul, en fait, quand il parle des choses d'en haut, dans cette même épître, il fait 58 fois référence à Christ. J'ai l'impression qu'il voulait qu'on parle de Christ. 58 fois. Et dans ces quatre versets, 5 fois. En fait, les choses d'en haut portent un nom. Christ. Jésus-Christ. Il y a un penseur chrétien qui a écrit un jour, il dit ceci, dis-moi, je crois au Christ, je crois au christianisme, je crois au Christ, comme je crois que le soleil se levait ce matin. Il dit, pas seulement parce que je le vois, mais parce qu'au travers de lui, je vois toute chose. C'est une question de perspective. Et c'est une question de priorité aussi. En fait, Christ lui-même a parlé de cette priorité fondamentale pour l'homme, de regarder et de considérer, de s'intéresser premièrement au royaume de Dieu. Pas comme une option, mais comme une priorité. Comme une priorité de regarder à lui. Parce que c'est à partir de ce regard-là, en fait, de cette perspective, en fait, que ton regard sur tout le reste va changer. C'est à partir de cette perspective que ton regard, que la réalité, en fait, de cette vie va s'éclairer, en fait, pour toi. Et c'est à partir de ce regard aussi que tu vas vivre vraiment. L'association qu'on a, en fait, en Espagne, ça s'appelle Real Life. C'est juste la vraie vie, tu sais. Ça fait un peu vraie vie. Est-ce qu'il y a une vie ? Il y a la vraie vie ? Est-ce qu'il y a une fausse vie ? L'idée, c'est vivre vraiment dans le sens... avec cette perspective de Christ en toi, qui te fait poser un regard sur la vie, sur toi-même. Parce que tu sais quoi ? Un autre secret. Il est impossible, en fait, de te voir tel que tu es, vraiment, si ce n'est pas au travers du regard de Christ. Tu pourras passer ta vie à te vêtir, à te parfumer, comme disait l'Ecclésiaste, en fait, pour essayer de cacher mille choses, ou de paraître mille choses aussi. Le seul moyen, en fait, de savoir qui tu es vraiment, c'est de laisser Christ poser ce regard sur toi. Mais le seul moyen de savoir qui est l'autre vraiment aussi, ton prochain. Le seul moyen, en fait, d'être sensible à ses besoins profonds, en fait, c'est de laisser le regard de Christ en toi le poser sur les autres, sur l'autre. Moi, je suis devenu, je ne sais pas, peut-être trop sensible. J'espère que ce n'est pas trop sensible dans le sens un peu... Enfin, mielleux ou je ne sais pas. Enfin. Mais vous savez, quand je vois des gens pleurer, ça me touche. Bon, c'est un peu bête, mais... Mais vous savez pourquoi ? Parce que au-delà de ce que je vois, en fait, j'imagine la souffrance de ces gens. J'imagine les conséquences, en fait, dans leur vie de ce manque de perspective. Mais quand je vois des gens sourire et rigoler, c'est la même chose. Je me dis, ces gens-là, en fait, ils ont cette quête, ils aimeraient pouvoir être joyeux vraiment, quoi. Et donc, ils expérimentent la joie, comme le disait ce roi. Mais une joie limitée, finalement, une joie qui va s'éteindre à un moment donné. Et vous savez pourquoi, en fait, il faut que ce soit une priorité ? Pourquoi ça devrait être une priorité, ça ? Pas parce qu'en fait, je sais pas, pas parce que c'est bien que ce soit une priorité, ou pas parce que c'est bien, évidemment pas parce que moi je le dis, c'est une priorité parce qu'en fait, si tu ne fais pas de ce regard sur Christ et de Christ lui-même ta priorité, eh bien forcément, tu en auras d'autres. Bon, c'est logique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de, situation intermédiaire, comme on aimerait parfois qu'il y en ait. C'est soit Christ, en fait, est notre priorité, soit Christ, il est notre trésor, soit forcément, on fera d'autres choses nos trésors. Et si tu fais d'autres choses tes trésors, eh bien, tu penseras à ces choses-là, tu vas ressentir et expérimenter ces choses-là. C'est inévitable. Il n'y a pas de situation, bon, en fait, moi, je ne vais pas non plus trop me laisser aller à faire de mes trésors des choses qui sont vaines, mais je ne vais pas non plus, en fait, faire de Christ mon trésor. C'est un peu trop radical ou fondamental ou je ne sais quoi. En fait, le problème, c'est que c'est soit l'un, soit l'autre. Moi, je n'ai pas eu le choix. Bon, si, mais pas vraiment. Je veux dire par là que... Mais c'est tant mieux. C'est-à-dire que Christ est devenu mon trésor. Christ est devenu ma passion. Alors vous allez me dire, mais Fred, c'est normal pour un chrétien, en plus il est missionnaire et tout ça, c'est normal, non, que ce soit ta passion? Ben non. Enfin, je veux dire, pas forcément. Parce qu'en fait, bien au-delà du fait que de mon statut, qui n'est pas si important que cela, en fait, je réalise la beauté, le trésor qu'est Christ dans la vie d'un être humain. Le sens qu'il lui donne. La perspective. Ça remet tout en place. Et vous savez quoi ? J'ai fait une découverte. En plus, dans ce passage, quand il dit... donc, pensez à ce qui est en haut et non pas ce qui est sur la terre. Il dit, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ. Dans cette même épître, en fait, l'apôtre dit que Christ, en Christ, il y a tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, d'accord ? En Christ. Si ma vie est cachée en Christ, aussi, ça veut dire quoi ? Eh bien que je suis dans la salle du trésor. Si en Christ, en fait, il y a toutes les trésors de la sagesse et de la connaissance, et si ma vie est cachée en Christ, ça veut dire qu'en Christ, je peux puiser en fait tout ce qui est nécessaire, et bien au-delà, en fait, pour vivre cette vie ici-bas, sur cette terre. Et ne vous méprenez pas, en fait, quand je parle en fait de toutes ces choses qui sont bonnes, de cette perspective en fait de Christ, en fait, on voit ces choses-là à leur juste valeur. Il ne s'agit pas de négliger, en fait, la bonté, l'amour, même certaines, dans un certain sens, les richesses, la sagesse. Il s'agit, en fait, de les apprécier à leur juste mesure. et faire de ces valeurs, en fait, des vecteurs qui vont nous conduire vers cette valeur absolue qu'est Christ. Il était une fois un sculpteur, en fait, c'est une histoire qu'on m'a racontée, que je trouve géniale. Un sculpteur, en fait, qui sculptait un grand bloc de marbre, et avec un style un marteau et un ciseau, quoi. Et puis il y avait un enfant qui de loin le regardait, et puis lui, en fait, l'enfant, ce que lui voyait, c'était simplement, en fait, des copeaux plus ou moins grands, en fait, tomber de ce bloc de marbre. Et il se demandait bien, en fait, ce que ce sculpteur pouvait bien faire, en fait. Quelques semaines plus tard, il est revenu dans l'atelier de ce sculpteur, et il a été surpris de voir qu'à la place du grand bloc de marbre, il y avait un magnifique lion sculpté. Et l'enfant, il dit... Il est allé voir le sculpteur, il lui dit, écoute, tu pourrais me dire, en fait, comment toi tu savais, en fait, qu'il y avait un lion dans ce bloc de marbre? Vous savez quoi? Quand Dieu nous voit, il voit Christ en nous. Peut-être ça ne se voit pas tant que ça, hein, mais il n'en demeure pas moins que ce soit vrai. Quand Dieu te voit, il voit Christ en toi. Et toutes ces choses qui nous arrivent, en fait, de la vie, sont ces copeaux, plus ou moins grands, qui ressortent du fait que Dieu nous sculpte. Et il a un projet très clair, Dieu, en fait, en tête. Il a un projet très clair, c'est de nous conduire, en fait, à une ressemblance de ce Christ, justement. Ça, c'est son projet. Alors, c'est facile à dire, vous allez me dire, bien entendu. Parce que le problème, c'est que ces copeaux, plus ou moins grands, parfois, en fait, peuvent signifier... et signifieront certainement, en fait, de la souffrance, plus ou moins grande. Mais même ça, même cette souffrance que va entraîner le fait que Dieu nous façonne à l'image de Christ, même cela, en fait, aussi grande soit-elle, ne va pas supplanter, ne sera pas plus grande que la gloire qui est à venir. C'est-à-dire que le projet de Dieu pour ta vie et pour la mienne est un projet extraordinaire. Il n'y a rien qui peut le remplacer. Il n'y a rien qui peut le remplacer. Un autre verset, en fait, nous dit qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'excellence dans la connaissance de Christ. Il y a quelque chose de l'ordre de l'excellence dans la connaissance de Christ. On doit faire de cette quête et de cette connaissance de Christ une priorité. Pas seulement parce que la parole nous le dit, mais parce que c'est le seul moyen de vivre vraiment sur cette terre. Ce même roi, en fait, disait, il dit poétiquement, en fait, tous les fleuves se jettent dans la mer, et la mer, elle n'est jamais remplie. C'est marrant comme formulation. Tous les fleuves se jettent dans la mer, et la mer, elle n'est jamais remplie. Je dis, bon. Mais en fait, moi, je me suis pensé qu'on pourrait dire pareil des valeurs relatives, justement. Ça veut dire que, en fait, tu vas pouvoir t'alimenter de toutes ces bonnes choses de la vie, de choses légitimes, mais pour autant, ton cœur ne sera jamais satisfait. Parce qu'en fait, encore une fois, il y a quelque chose que rien ne remplace. La présence de Christ dans ton cœur, dans ta vie. Et qui lui donne tout son sens. C'est ça être chrétien. Quand il y a 4-5 ans à peu près, je perdais une partie de ma vie. On va dire ça comme ça. Mais je perdais aussi en même temps un peu le sens des choses, du présent, du futur, et je ne savais pas trop en fait où quoi faire, ni où aller, enfin. Et donc j'ai convoqué mes enfants qui sont là, en grande partie, je suis tellement content qu'ils soient là. C'est vraiment chouette, je vous assure. Comment ? En grande partie, oui, pardon. Parce que c'est vrai, je n'ai pas d'autres enfants que ces quatre-là. Merci Chérine. Et en fait, j'aurais demandé, qu'est-ce que vous pensez que je devrais faire? J'avais besoin, en fait, de leur regard sur cette nouvelle étape de ma vie, non? Et vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, papa, en fait, on aimerait que tu continues de faire ce que tu as toujours fait. C'était pour moi d'une aide considérable, en fait, une bénédiction dans ma vie à ce moment-là, quoi. Parce que je me suis dit, en fait, en dépit de tout, continuer de faire ce que j'ai toujours fait, ça veut dire finalement continuer de vivre en Christ. Continuer de considérer le Christ comme une priorité. Continuer de partager en fait cette espérance de la gloire à venir. En Espagne, souvent, ils me disent « Mais alors, Fred, comment ça se fait que tu n'es pas rentré en France et tout cela, finalement, après tout ce qui s'est passé ?» Et c'est vrai que j'ai été conseillé, en fait. J'ai reçu 1 million de conseils, en fait, à ce moment-là, comme c'est souvent le cas. Certains bons, d'autres moyens, et d'autres carrément mauvais. Mais enfin, moi, je me suis beaucoup fié, en fait, à ce que mes enfants m'ont dit. Mais vous savez, en me posant la question de savoir « Mais pourquoi l'Espagne, la France, tout ça ?» Mais j'ai réalisé « Mais si Christ est ma vie, ma patrie, c'est lui. Ni la France, ni l'Espagne. Ma patrie, c'est le royaume de Dieu. On est passager ici-bas. Ça n'enlève en rien la valeur de la famille, tout cela. Moi, je meurs d'envie de voir mes enfants. Quand je les vois, je suis super heureux. C'est pas ça de... Mais je veux dire, on est, comment dire, passager, en fait. On va pas s'éterniser ici-bas. Et donc, qu'importe où je suis, ce qui est important, c'est que là où je suis, Christ soit avec moi. Et qu'il m'accorde la grâce et le privilège de pouvoir partager l'espérance et la gloire qu'il y a, en fait, en le regardant à lui, en vivant, en fait, selon ses paroles et en les partageant. Il y a une dernière information qui vaut de l'or. Vraiment, ça vaut de l'or. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, vous imaginez en fait que Paul, il nous dit, voyez, là, je vais vous dire, je vous partage un secret. Christ, ce Christ-là, eh bien, il revient. C'est pas un film, c'est pas un truc de... Le Christ dont on parle, qui a foulé cette terre il y a 2000 ans, il revient. Et vous imaginez en fait que de savoir en fait ce qui va se passer devant nous, c'est la réponse à la question la plus importante et la plus troublante en fait pour l'homme. Qu'est-ce qui va se passer après la mort? Ou comment la terre va évoluer? Comment tous ces jeux politiques, comment tout ce qui se passe, vers quoi on va? C'est pas seulement en France que qu'il y a des problèmes, c'est le monde entier qui est troublé. Vers quoi on va? Eh bien, j'aimerais juste vous rassurer. Vous rassurer, ça dépend. Parce qu'il faut être prêt quand Christ revient. Mais il revient. Mais vous imaginez cette perspective. Ça veut dire que c'est si important de pouvoir poser le regard sur l'horizon, dire, ça c'est ce qui m'attend. Ça c'est vrai. Cette gloire à venir, Christ, il revient, c'est vrai. Et cette certitude, elle m'aide à vivre aujourd'hui. Elle m'aidera demain, elle m'aidera après-demain, parce qu'elle pose une fondation, en fait, dans mon cœur, dans mon esprit, dans ma vie, quoi. C'est-à-dire, ça, c'est la certitude. Et autour de cette certitude-là, je construis ma vie. J'évalue les choses, je les regarde, je les examine, je vis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la vraie vie, je crois. C'est ça la vraie vie. Tu ne peux pas continuer à vivre en mettant de côté cette information-là. Tu ne peux pas continuer à vivre comme si tout ça, ce n'était pas vrai. Mais pas seulement parce qu'en fait, vous savez que ce roi dont je parlais, finalement, au bout de 12 chapitres où il a expérimenté tout ce qu'on peut expérimenter, il dit finalement, ce dont je me rends compte, c'est que Dieu existe et qu'il vaut mieux, en fait, penser à lui et craindre, parce que non seulement il existe, mais en fait, il y a un jugement qui est à venir. C'est-à-dire qu'il parle aussi d'un jugement. C'est-à-dire que l'être humain va être confronté à un Dieu vivant à qui il va devoir rendre des comptes. Il dit donc, juste pensez-y. Mais c'est vrai. C'est vrai. Il y a un verset qui dit, préparez-vous à rencontrer Dieu, non? Préparons-nous. Préparons-nous à rencontrer ce Christ vivant. Fais de ta vie la vraie vie, une vraie vie. Alors, tu sais, c'est toujours un peu troublant quand on parle comme ça à des gens, à des personnes, comment dire, qu'on ne connaît pas forcément, vous voyez. Mais moi, tu sais ce que j'aimerais, mais il me faudrait du temps. J'aimerais te rencontrer à toi personnellement, à chaque... parler avec toi, tu vois. T'écouter me parler de ta vie. Qu'est-ce que tu fais de ta vie finalement? Mais en tout cas, si tu es un de ceux qui se pose beaucoup de questions, si tu es un de ceux qui n'arrive pas à régler en fait en soi cette question de la culpabilité, si tu vis avec des souffrances en fait que toi seul connais, si quelque part tu te sens pas à l'aise avec ta vie, si quelque part en fait tu n'as pas cette prétention d'imaginer que tout va bien et que tu n'as pas besoin de Christ, alors viens me voir. Va voir un responsable après le culte, je t'en prie. Parce que sinon, tu feras de ce culte une cérémonie en plus. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas d'une religion. Tu n'es pas ici dans un édifice religieux. Tu es dans un endroit où on te parle d'un Christ vivant que tu peux rencontrer. Le seul chemin, en fait, pour y accéder, c'est je me repens, en fait. D'avoir vécu en pensant que Dieu n'existait pas. Je me repens d'avoir pris des décisions sans tenir compte, Dieu, de ce que tu voulais pour moi. Je me repens, je te demande pardon. Il y a une perspective de vie incroyable. Il y a un chant auquel je pense, c'est un vieux chant. Quand tu commences à dire qu'il y a des vieux chants, ça veut dire que tu commences à vieillir. Tu sais, il y a un vieux cantique, mais je ne sais même pas s'il doit exister quand même. C'est « Tu peux naître de nouveau ». Moi, celui-ci, je ne sais pas pourquoi, c'est dingue, je pensais beaucoup à cela. Mais c'est tellement beau. Tu peux naître de nouveau et tu peux tout recommencer. Eh bien, je vous assure que, je ne sais pas vous, mais je connais beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui aspirent, qui crient en fait pour naître de nouveau et pour pouvoir tout recommencer. Eh bien, c'est possible. Quand Christ parlait aux foules, les évangiles nous rapportent en fait que certains se moquaient en fait de lui. D'autres disaient, bon écoute, t'es bien sympa, ce que tu dis c'est bien fait, c'est bien. Mais écoute, on va t'entendre un peu plus tard sur ces questions-là. Il y a une troisième catégorie qui disent, et certains, ils crurent aux paroles de Christ. Ce qui fait la différence, en fait, ce qui fera la différence dans ta vie pour vivre vraiment, c'est de croire en ce que Christ a dit, de faire de Christ ta vie, de regarder à lui. Et de puiser dans les trésors de sa sagesse, de sa connaissance, parce que ce n'est pas des trucs... Non, sa parole, la parole de Christ, et le Christ de la parole, c'est du consistant, c'est une rencontre. Vous savez, quand on... Je termine là-dessus, mais quand on dit, mais ouais, mais alors, on voit souvent l'approche du christianisme, c'est des choses qu'il y a à faire ou pas. Mais en fait, c'est une folie de penser, en fait, à l'obéissance de quelque chose sans connaître celui qui a... Le christianisme commence par la connaissance de Christ. Mais quand tu connais Christ, je peux te garantir, tu as envie de lui obéir. Tu sais pourquoi? Parce que tu comprends en fait toute la beauté, tout le bien fondé de sa parole. Parce qu'elle répond précisément à ton profond besoin. Et tu réalises qu'il répond au profond besoin de ton prochain. C'est du rock. C'est du rock. Et sur ce rock, tu sais, nous les chrétiens, on n'est pas à l'abri de rien du tout. Tout peut arriver à tous. La différence, c'est que sur ce roc, tu peux toujours reconstruire. Ouais. Je peux vous assurer que dans ma vie, si Christ n'était pas ma vie, si je ne regardais pas à Christ, en fait, jour après jour, ma vie aurait perdu de son sens. Et que je ne serais certainement pas là, en fait, à essayer de vous dire, allez, décide de vivre vraiment. Que Dieu vous encourage à regarder à lui, à considérer ces choses sur la terre comme des bonnes choses, mais qui ne répondront pas complètement à cette intuition que Dieu a placée en toi, qui t'aspire aux choses éternelles. L'éternité, c'est long. Bien plus long, en fait. Des quelques années, en fait, que nous avons à vivre ici-bas. Donc, le bon sens fait que nous devrions nous préoccuper de cette longue éternité pendant le temps que nous sommes ici-bas. Pensez aux choses de Dieu. Pensez à Christ. Et posez-vous la question, en fait. Est-ce que vous êtes ressuscité avec lui? Vraiment? Et si oui, sinon, encore une fois, parle-en, pose des questions. Et si oui, alors vis ta vie pleinement. Cette vraie vie dont j'essaie de vous parler. Merci hein, pour votre écoute. Encore une fois, je vous assure que j'aurais aimé de loin pouvoir te rencontrer à toi. Juste je ne suis pas à l'aise, en fait, forcément, dans ces situations-là, tu vois. Mais je suis heureux d'avoir rappelé, en fait, cette chose si importante. Que Dieu vous bénisse, vous encourage et continue de se glorifier au sein de cette assemblée-là. Parce que vous savez, quand on parle du royaume de Dieu, quand Christ il dit, ouais, cherchez premièrement le royaume de Dieu, mais il est où ce royaume? Il n'est pas encore totalement visible, sauf un petit peu dans ta vie, un petit peu dans la mienne, et aussi dans l'Église. Que Dieu enfin, nous accorde d'être un peu d'avoir ce goût, cette odeur, en fait, de Christ, pour encourager et répondre à la question dont a tellement besoin l'humanité. Allez, amen.